8h21 à Boulevard Against le matin, Boulevard 101-88-971-101, le numéro pour nous rejoindre par texto. Un invité qu'on a souvent reçu dans les derniers mois, des fois avec des entre guillemets bonnes nouvelles, des fois avec certaines incompréhensions de comment ça c'est long de même avant qu'il se passe quelque chose. Et là, ben, on est dans un contexte pour l'invité du moins de bonnes nouvelles. L'ex-chef pneumologue du CHU de Québec, Pierre Damour, qui a démissionné de son poste de pneumologue il y a 2 semaines. C'est Olivier Teasdale qui est avec nous, fils de Jacques Teasdale. On a beaucoup parlé du dossier du décès de son père survenu en juillet 2024 par rapport à un oubli de dossier qui éventuellement aurait sans doute mené, malheureusement, à ce décès-là. Olivier, comment ça va ce matin?
Ça va bien, ça va bien.
Cette nouvelle-là de la démission de Pierre Damour, qui était le pneumologue associé au dossier de ton père, comment vous l'avez reçu?
Ben pour la famille, puis pour moi aussi, c'est un soulagement de savoir que ce pneumologue-là sera plus dans le CHU de Québec actuellement. On le disait hier dans une autre entrevue, pour mon père, aujourd'hui, il est trop tard. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière, c'est fait. Mais il y a encore d'autres patients qui sont malades. Il y a encore d'autres gens qui vivent avec le cancer des poumons. Et c'est un soulagement pour nous de savoir que ce pneumologue-là n'oubliera pas les prochains. Il n'y aura pas, de sa part, un prochain Jacques Teasdale dans son dossier à lui.
La démission est survenue à peu près 2 semaines. Vous l'avez appris de quelle façon, de votre côté?
On a reçu un courriel du CMDP là, qui nous a transmis la lettre du CHU de Québec comme quoi Pierre Damour avait annoncé sa démission. Ça s'est fait le 31 juillet. Donc, il devait prendre sa retraite fin de l'année 2026. Okay. Donc, on comprend qu'il laisse quand même quelques mois de salaire sur la table en démissionnant maintenant. Et là, écoutez, pour nous, comme je vous disais, c'est un soulagement de savoir que cette partie de dossier-là vient de se régler.
Pierre Damour qui était visé par une plainte. L'enquête du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui, donc, va pas se poursuivre en raison de sa démission. C'est pas un peu, entre guillemets, dommage de pas être allé jusqu'au bout ou c'est pas grave parce que le Collège des médecins, lui, va poursuivre son enquête puis il y a quand même d'autres procédures qui se font?
Pour nous, comme je vous disais, cette enquête-là, c'est une enquête à l'interne du CHU. On s'entend, c'est des sanctions disciplinaires qui peuvent arriver au niveau du CHU. Pour nous, je pense que les enquêtes qui sont le plus important actuellement, qui se continuent, c'est l'enquête du Collège des médecins sur le pneumologue et sur le médecin de famille, et aussi le rapport du coroner qui va venir. Le rapport du coroner viendra nous donner des recommandations, certes, pour nous dire ce qui s'est passé avec le pneumologue. L'enquête du CMDP, j'enlève pas l'importance à l'enquête du CMDP parce qu'il y a des sanctions disciplinaires prévues pour le genre d'oubli que M. Damour a fait. Par contre, actuellement, les deux grosses enquêtes continuent. Celle du CMDP se ferme par la démission du pneumologue, mais à l'heure actuelle, les deux grosses enquêtes se continuent.
Dans le dossier de votre père, il y a eu plusieurs enjeux que vous avez portés à l'attention du grand public pour avoir de l'appui, mais aussi des témoignages pour s'assurer qu'on corrige les lacunes du système. Il y a eu toute la maltraitance dont il a été victime en fin de vie, mais en lien directement avec ce pneumologue, toute cette histoire, on retourne à l'origine de l'histoire de la maladie et de l'hospitalisation et éventuellement du décès de votre père. Là.
Exactement.
Expliquez-nous justement qu'est-ce qui s'est passé au début, parce que je trouve ça super important, le début de cette histoire-là, parce que ça peut arriver à n'importe qui encore aujourd'hui.
Exact. C'est pour ça que je le disais dans ma publication. Le pneumologue en question, il y a un impact majeur sur le décès de mon père. Faut pas négliger cet aspect du dossier-là. On parle de décembre 2020, on fait passer un taco à mon père à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Janvier 2021, il rencontre le pneumologue. Le pneumologue annonce qu'il y a une tache, une nodule sur un poumon. On convient les deux ensemble, c'est-à-dire mon père et le pneumologue, de faire un suivi un an plus tard, c'est-à-dire à peu près vers décembre 2021.
Oui.
Suivi qui, dans l'histoire, nous apportera que ce suivi-là n'aura jamais été fait. Puis il y a eu plusieurs chances comme pneumologue de reprendre ce suivi-là parce qu'il y a eu des prescriptions qui ont été envoyées. Les pharmaciens ont levé le flag en disant « Écoutez, M. Teasdale, là, sa pompe de Ventolin, il a surconsomme. M. Damour represcrit, faisait une nouvelle prescription à nouveau, sans consulter mon père, sans le voir. Donc, les 3 ans qui se sont passés, 3 ans, quelques mois, entre janvier 2021 et l'annonce du diagnostic de cancer stade 4 des poumons, mon père avait une bombe à retardement dans les poumons parce que son pneumologue n'a pas fait le suivi adéquat pour lui.
Ouais.
Si ça avait été fait en 2021, Mon père, aujourd'hui, serait probablement assis avec nous à parler de politique, à parler d'autres choses. Est-ce qu'il serait mort d'une crise cardiaque ou est-ce qu'il serait mort d'un accident d'auto? Ça, on ne peut pas prédire l'avenir. Ouais. Mais il aurait évité toutes ces souffrances-là inutiles parce que quelqu'un ne l'a pas suivi au départ.
Et moi, je trouve que ça indique aussi que quand un médecin nous dit il y a un petit quelque chose, j'ai trouvé un petit quelque chose, ça peut être bénin, ça peut être banal, on va juste porter attention, on va surveiller ça. Ça nous indique aussi, nous, comme patients ou comme citoyens, de garder ça en tête, de se faire une note puis de relancer nos médecins parce que si on se fie sur eux pour nous relancer, bien, parfois, ça peut tomber dans l'oubli. On tombe entre deux chaises, comme on dit.
Puis vous savez, ce qui est pire dans l'histoire, c'est que mon père a relancé à plusieurs reprises niveau du CHU. Jamais eu de retour. Puis comme je le disais des fois avec Jeff qui est ici ou Reg à l'époque, mon père, c'est un journaliste, un vieux de la vieille, il travaillait au Cardex avec des crayons. Pas de nouvelles, bonne nouvelle.
Ouais.
C'est comme ça qu'il fonctionnait. Puis s'il faut penser une autre chose, c'est entre 2021 et 2024, il a été hospitalisé 5 fois à l'urgence. Jamais personne, puis là, je dis bien jamais personne aux urgences lui a mentionné que son cancer évoluait, ni même jamais son médecin de famille ou son infirmière praticienne.
Ouais.
Donc, lui, pour lui, sortait de l'hôpital avec un diagnostic de bronchite, un diagnostic de pneumonie. On retourne à la maison avec des antibiotiques, puis la vie continue.
Ouais. Hmm.
Est-ce que vous comptez encore poursuivre le CHU de Québec pour négligence dans le dossier?
Absolument, absolument. Le dossier va se judiciariser probablement d'ici l'automne. Il faut comprendre qu'on a envoyé une demande, une mise en demeure en octobre 2024. On est presque rendu à un an sans réponse. On nous a demandé au départ d'attendre pour qu'eux puissent prendre position. Là, après un an, je pense qu'on est capable de prendre position dans ce genre de dossier-là. Fait que nous, la décision qu'on a prise, c'est que d'ici le début de l'automne, écoutez, ça devrait être peut-être septembre, début octobre maximum, on va déposer la demande introductive au palais de justice là, avec les avocats.
Puis pour ce qui est des autres enquêtes qui sont en cours, parce qu'il y en a quand même eu quelques-unes, puis là, on se perd un peu parce que c'est à différents niveaux, on en est où présentement?
On est toujours en attente. Il y a le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, puis le coroner. Chacun a leur propre délai d'enquête. Écoutez, nous autres, ils nous tiennent au courant aux 60 jours. Par la loi, il faut qu'ils nous disent où est-ce qu'on est rendu dans le dossier aux 60 jours. Actuellement, les enquêtes continuent. Je pense qu'après un an, d'après moi, on devrait commencer à avoir des résultats au niveau de ces enquêtes-là, au niveau du pneumologue, justement, au niveau du Collège des médecins, médecins de famille et infirmières praticiennes.
On n'a pas parlé souvent, quand ça fait quelques entrevues là, qu'on réalise ensemble, je vous ai pas entendu parler, puis je serais curieuse de savoir comment votre père a pris ça. Cette erreur médicale-là ou ce manque de suivi dans son diagnostic parce qu'à un moment donné, il était gravement atteint. Le cancer avait rongé ses poumons. Il était rendu dans un état très avancé. Lui, qui est un homme d'actualité, qui est un homme d'information, qui est un homme pragmatique, comment il a vécu ça avant là, qu'on arrive au stade final où là, il vivait l'enfer, bien sûr, là, mais le choc d'apprendre que ça fait des mois que je pense que j'ai quelque chose de bénin ou de banal, mais finalement, ça me ronge de l'intérieur.
Bien, il est enragé, ça, il faut le dire. Il était extrêmement fâché. Mais comme il disait, puis il avait dit dans sa première entrevue qu'il a faite avec TVA, c'est avec Sébastien Dubois, il dit « Je suis enragé, mais je ne peux pas me fâcher plus parce que je deviens de plus en plus essoufflé.
Ah. »
Mais il était fâché du système. Puis son autre point était « Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi moi? C'est pourquoi on m'a oublié?
»
Puis il n'y a pas de réponse à ça, malheureusement. Puis je pense que tous les spécialistes, il y a des spécialistes qui font des erreurs. Je pense qu'à un moment donné, c'est ça aussi qu'on devra changer. Les réponses devront venir beaucoup plus vite pour les gens. Vous savez, mon père est parti et décédé sans aucune réponse. Pourquoi on m'a mal soigné? Pourquoi on m'a oublié? Pourquoi on m'a donné de la maltraitance? Puis il n'y a personne. Puis à un moment donné, il pleurait. Puis il m'a dit, tu sais, c'était touchant pour nous comme famille.
Ben oui.
Avec du recul, un an plus tard, tu sais, ça fait maintenant un an qu'il est décédé. Il disait, pourquoi moi j'ai ça? Puis on lui disait, mais c'est pas de ta faute à toi. On va essayer de corriger ça, mais pour l'instant, on n'est pas capable de le faire.
Ouais.
Mais tu sais, ça vient nous chercher parce que quand même, c'est une personne qu'on aimait beaucoup.
Mm.
Puis de voir qu'il a été oublié, puis de voir qu'il n'était pas bien soigné, maltraité comme ça, bien, c'est malheureux qu'on n'ait pas eu de réponse avant qu'il décède ou que lui puisse au moins avoir des réponses.
Ouais.
Parlant d'avoir des réponses, ça fait plusieurs fois que tu viens nous voir puis tu nous mentionnes que tu aimerais ça t'asseoir avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, juste jaser. J'imagine que ce n'est pas fait encore.
Écoute, j'ai relancé par publication Facebook. Je pense que c'est la meilleure façon d'y rejoindre maintenant avec la modernisation d'Internet et tout. J'ai relancé le ministre, les 125 députés cette semaine. J'ai toujours pas de réponse. J'écoutais François Legault hier qui disait qu'il voulait se rapprocher de la population, d'entendre, qui dit « Je pense que c'est le moment de nous entendre. » Je pense qu'après un an, puis c'est pas un gros travail de s'asseoir avec nous puis de nous rencontrer. C'est quelques minutes, c'est une trentaine de minutes pour écouter l'histoire de quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui votait, c'est quelqu'un qui payait des impôts, c'est quelqu'un qui était présent dans la communauté. Je pense que de prendre 30 minutes Puis je dis pas que Pierre Vachon ou Gilles Tremblay est moins important que mon père. Ce que je dis, c'est de servir de Jacques Teasdale comme exemple pour plus que ça se reproduise pour justement les autres qui vont venir. Mm-hmm.
Rappelle-moi, je me souviens pas si tu avais eu une certaine réponse du ministère de la Santé. Il me semble que tu avais eu une réponse un peu vague par courriel.
Réponse que comme quoi il y avait des enquêtes actuellement, on laissait aller les gens diriger. Mais il faut juste comprendre, là, puis je lance encore le message au ministre Dubé, on va pas là pour parler de la judiciarisation du dossier, on va là pour parler de l'histoire de Jacques Teasdale. La judiciarisation, là, ça c'est la cour, c'est les juges qui vont s'occuper de ça, les avocats entre eux. Ce qu'on veut parler avec le ministre de la Santé, c'est lui dire, écoutez, regardez ce que mon père a vécu, lui montrer ce que mon père a vécu pour que plus d'autres, plus personne vit ça.
Avez-vous l'impression que votre père était un homme de Québec, vous êtes à Québec, ça se passe à Québec? Avez-vous l'impression que l'histoire, elle s'est fait connaître dans tout le Québec? Avez-vous l'impression que si ça s'était passé dans la région de Montréal, on aurait peut-être plus de visibilité ou plus d'écoute politique, plus d'attention médiatique? Là, on vous en donne de l'attention médiatique, mais on est à Québec. On sait bien que les grands médias de Montréal influencent énormément nos politiciens qui sont ultra à l'écoute. Avez-vous l'impression que le fait que ça se passe à Québec, ça a moins d'écho dans tout le reste de la province?
Mais je pense qu'ils nous voient petits.
Ouais.
Je pense qu'ils nous voient comme un petit maringouin. Je le rappelais l'autre jour, on était ici. Au début, j'étais seul. Aujourd'hui, je vois tous les commentaires. C'est des milliers de commentaires, c'est des milliers de vues. Il y a des gens de partout maintenant au Québec qui nous écrivent pour partager, pour nous encourager. Le combat se fait plus tout seul. Puis je pense que justement, il va falloir que les politiciens de Québec, nos députés qui sont là quand même aussi, il va falloir qu'ils réalisent. Je regardais la lettre qu'on a envoyée aux députés sur Facebook, TikTok cette semaine. Ça a été vu 75 000 fois. Il va falloir qu'ils réalisent que ces gens-là qui nous suivent, c'est des gens qui votent aussi.
Mm-hmm.
C'est des gens qui ont un souvenir, qui ont une mémoire. On va se rappeler dans un an qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire pour le dossier de mon père et les autres, parce qu'on ne parle pas beaucoup de santé au niveau des députés à Québec ici. Là.
Ouais.
Et effectivement, peut-être que si c'était un dossier qui avait été à Montréal,
mm-hmm.
peut-être un petit peu plus médiatisé à Montréal, peut-être que les politiciens auraient été appelés à plus sortir, mais on ne veut pas faire un show.
Non.
On veut rendre justice à mon père,
ouais.
puis on veut que les politiciens s'impliquent. Je pense que c'est légitime de demander aux politiciens, impliquez-vous dans ça, c'est eux qui sont les gens qui peuvent aller changer le système de santé.
Ouais.
À court terme, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Là, on continue de suivre le cours des enquêtes, la judiciarisation qui s'en vient aussi.
On suit ça. Écoutez, d'ici l'automne, comme je vous dis, on va judiciariser le dossier. On va voir ce qui va arriver. On va peut-être avoir des appels avant, peut-être après. Peut-être que des négociations pour régler le dossier. Mais on aimerait vraiment, je vous dirais, avant l'automne, d'avoir rencontré le niveau politique. Je pense que c'est hyper important pour les gens de Québec, les gens du Québec, que ça ne se reproduise plus. Puis je pense que, je le dis toujours, le commandant en chef de la santé jusqu'à maintenant, à moins qu'un remaniement et changement, on va pouvoir talonner le prochain ministre. Mais si le ministre Dubé ne change pas, ça serait extrêmement apprécié qu'un jour, à un moment donné, on dise, écoutez, là, ça fait assez longtemps qu'on le fait attendre, je pense qu'on va le rencontrer.
Avez-vous l'impression qu'on a baissé nos attentes beaucoup par rapport à nos exigences du système de santé? On a l'impression qu'on entend toutes sortes d'histoires de nos proches. On voit ça sur les réseaux sociaux, des gens qui ont été échappés par le système ou qui ont vécu toutes sortes de mésaventures avec le système et qu'on aurait baissé nos critères. Et c'est ce qui fait qu'on endure ou on tolère l'intolérable.
Je pense que le niveau d'acceptation a baissé, effectivement. Ouais. Les protocoles ont baissé. Je pense que le standard de bons soins a baissé drastiquement. Est-ce qu'il faut toujours dire que c'est un manque de personnel? Je pense pas. Je pense qu'au milieu, il y a de très bons infirmiers, de très bonnes infirmières. Malheureusement, il y a quelques pommes pourries au niveau du réseau. Il va falloir commencer à penser, à regarder ça. Parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de soins-là, parce qu'on le sait, là, les soins, c'est un besoin qui est fondamental. On a le droit de se faire soigner dans une dignité puis avec des bons soins. Je pense qu'on accepte trop facilement aujourd'hui, puis autant de la part du politique, ce qui est rendu, où est-ce que le système de santé est rendu actuellement. On ne peut pas accepter que ça soit rendu si bas comme stade.
Olivier Teasdale, merci beaucoup.
Fait plaisir, merci à vous.
Merci. Boulevard 102.